Radio Univers.
Logosphère. Zone autonome de parole et de pensée libre. Agora, où se mêlent expériences et réflexions sur ce monde que nous partageons. Une sorte d'université populaire sonore. C'est maintenant sur les ondes d'univers. Qualifier une idée d'utopique a souvent pour but d'en dénoncer son irréalisme et de la ranger du côté des choses illusoires, voire dangereuses. Parce que pour le sens commun, l'utopie est synonyme du fait de prendre ses désirs pour la réalité. Considérer une pensée ou un discours de la sorte a ainsi pour effet de les disqualifier. Cependant, si l'utopie est ainsi dévalorisée, elle a aussi une valeur positive. En effet, parce qu'elle donne à voir par l'imagination un monde autre que celui qui existe effectivement, l'utopie a cette vertu de nous rappeler que le monde dans lequel nous vivons peut toujours être transformé. Telle en est sa qualité. Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'utopie? Que désigne-t-elle et quelle en est son histoire? Pourquoi est-elle souvent synonyme d'illusion? En quoi l'utopie fait pourtant partie intégrante de l'histoire du monde moderne? Pourquoi est-elle subversive aussi et représente-t-elle à chaque époque une menace pour les pouvoirs dominants? Notre époque ne serait-elle pas justement propice à l'utopie? Telles sont les questions que nous avons posées à Laurent Lotti, professeur de littérature à Rennes 2, chercheur rattaché au CNRS, et Michèle Rio-Sarcet, historienne pour l'Université de Paris 7. Nous les avons rencontrés à l'occasion d'une intervention qu'ils donnaient au Champ Libre à Rennes. Michèle Rio-Sarcet, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 7 Saint-Denis, spécialiste de l'histoire politique du 19e siècle, et notamment sur les utopies, sur le féminisme et les questions du genre. Vous avez écrit notamment « Le réel de l'utopie, histoire du féminisme, dictionnaire des utopies ». Bon, ce sont quelques livres parmi beaucoup d'autres. Alors, nous étions ici au Champ Libre pour une conférence, justement, sur l'utopie. L'utopie, aujourd'hui, est considérée au mieux comme quelque chose de fantaisiste, au pire comme une illusion ou quelque chose de dangereux. Ce sont les idées que véhicule le sens commun. Alors, première question, pourquoi l'utopie est-elle aussi dévalorisée de la sorte, en la considérant comme une illusion?
Elle a été dévalorisée pour deux raisons. On a identifié l'utopie aux doctrines utopiques qui ont laissé croire, si vous voulez, un monde meilleur dans un ailleurs impossible. Mmh. Et d'autre part, comme l'utopie réelle est profondément liée à la pensée critique, elle est incontestablement déstabilisante pour l'ordre, voire dangereuse. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut que la rejeter. Enfin, ceux qui pensent qu'ils ont la vérité pour eux, ceux en général qui ont le privilège de gouverner les autres, ne peuvent pas accepter cette mise en cause de l'utopie par tout simplement n'importe qui. Mmh. C'est-à-dire, à partir du moment où on a un point de vue critique sur le monde, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas admis par l'ordre. L'utopie, comme je l'ai dit tout à l'heure, est intempestive. Ça veut dire qu'elle n'a pas de place dans l'ordre existant, quel qu'il soit.
Alors, elle n'a pas de place dans l'ordre existant, quel qu'il soit, et pourtant, c'est un facteur important, un élément important de la modernité et du projet des Lumières.
Oui, c'est une dimension importante du projet des Lumières, c'est-à-dire que l'utopie a poursuivi son chemin depuis la naissance du mot par Thomas More. Et après, comme elle est ancrée dans le réel, elle évolue bien entendu au fur et à mesure de la réalité des choses et de l'évolution du monde. Donc à partir de la modernité, au sens large du terme, les uns commencent la modernité avec la Révolution française, les autres avec les Lumières, les autres avec la naissance de l'imprimerie, c'est-à-dire la naissance de l'imprimerie permet tout simplement d'accéder à la connaissance directement, sans passer par des autorités qui lisent pour vous et qui interprètent le texte. Qu'importe, il y a une évolution, l'utopie a commencé par être un genre d'écriture, un genre littéraire, et puis peu à peu elle est devenue un genre politique, c'est-à-dire vraiment tenter de dépasser l'ordre existant à travers un texte, mais à travers aussi des mouvements sociaux. Et donc, l'entremêlement du texte critique par rapport à la société et d'autre part, le mouvement social a fait naître une peur extraordinaire de la part de l'ordre existant parce que il y avait une interprétation du texte, que ce soit les textes des utopies classiques, Saint-Simon, Fourier, Owen et bien d'autres. Il y avait une interprétation qui suscitait l'esprit révolutionnaire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en 1848, on a considéré que c'était les utopies qui étaient responsables des révolutions. D'un certain point de vue, ils n'avaient pas tort, parce que c'est une interprétation, justement, des textes critiques, textes qu'on a qualifiés de socialisme, de communisme et bien d'autres, de républicains, parce que la République démocratique et sociale était considérée comme utopique. Et tout ceci a créé une peur extraordinaire, et c'est la raison pour laquelle on a assimilé l'utopie au communisme réellement existant, et du même coup, le despotisme du communisme n'a pas, bien sûr, éclairé le monde, au contraire, a déposé une véritable chape de plomb pour ne pas étudier justement cet esprit utopique qui avait mobilisé les masses jusqu'aux années 1917. Je ne parle pas de la révolution russe de 1917, mais en particulier celle de 1905.
Là, nous arrivons dans une situation aujourd'hui qui est une situation où, enfin, une époque dans laquelle il y a beaucoup d'incertitudes, du scepticisme très partagé vis-à-vis de toutes les formes, on va dire, de programmes de l'histoire, de déterminisme ou de sens de l'histoire. Et finalement, notre époque n'est-elle pas propice justement à l'émergence de nouvelles utopies ?
Alors justement, la critique du sens de l'histoire me semble parfaitement juste. Le sens de l'histoire, c'est quelque chose qui a été construit après coup, comme si on avait une orientation déterminée en fonction d'un objectif collectif et commun. Ça, effectivement, ça n'a pas de sens. Alors aujourd'hui, on est revenu justement sur cette question à juste titre et on peut maintenant davantage privilégier le mouvement de l'histoire au détriment du sens. Parce que le mouvement génère justement des idées différentes, génère des points de vue différents et c'est bien le berceau de la démocratie. Cette multiplicité d'idées qui se confrontent pour qu'ensemble, on imagine une société autre. C'est bien ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Et c'est un bienfait.
Quelle serait, selon vous, quelle forme pourraient prendre les utopies qui peuvent se développer hein, dans notre époque ? Est-ce qu'il y aura, par exemple, un renouvellement de cet humanisme qui existe dans le projet des Lumières ?
Je crois qu'il est en train de se renouveler. L'utopie qui est en train de se préparer un peu partout dans le monde, c'est l'utopie démocratique. On a bien vu les révolutions arabes, comment et sur quelle base elles se sont organisées, comment elles se sont mobilisées. Donc c'est l'utopie démocratique. La démocratie réelle n'a pas véritablement existé, à l'exception d'une expérience ancienne, encore que un certain nombre d'individus étaient exclus de cette démocratie, les esclaves et les femmes, et les métèques, métèques au sens noble du terme, c'est-à-dire les étrangers. Mais l'utopie démocratique est toujours devant nous, puisque ce qui s'est déroulé dans les pays occidentaux, ce qui s'est mis en place, c'est un gouvernement représentatif et non pas une démocratie représentative, comme on a bien voulu le dire. La démocratie reste à fonder. Et en ce sens, et je crois encore que les révolutions du Machrek et du Maghreb nous montrent que c'est une véritable utopie d'avenir.
Alors, dernière question. On voit aussi que nous sommes dans une sorte de vieux monde où les catégories de l'économie politique semblent ne plus réellement fonctionner. Est-ce que cette utopie dont vous parlez devra aussi faire tomber ces systèmes de signification qui promeuvent l'économie au plus haut point ?
Oui, bien sûr, parce qu'on a vécu justement dans l'illusion. Pour moi, l'illusion, ce n'est pas l'utopie. C'est l'illusion de la force des choses. Et comme si l'humanité n'était qu'au service de quoi ? On ne sait pas. De quelle autorité ? On ne sait pas. De l'autorité économique, de la loi du marché. Et je crois que c'est ça qui est en train d'être mis en cause, mis en question. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est en train de se dérouler. On appartient au vieux monde, le monde nouveau est en train de naître, mais naître avec peut-être l'humanité au premier rang.
Michel Riault-Sarcey, sur ces mots, merci.
Merci à vous.
Logosphère. Zone autonome de parole et de pensée libre. Sur les ondes d'univers. Laurent Lotti, bonjour. Nous sommes ici au Champ Libre à Rennes pour une conférence autour de l'utopie. Alors, vous avez été professeur à l'Université de Rennes 2 en littérature. Nous abordons ici ce thème de l'utopie. Alors, première question vraiment très simple. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'utopie ? Et quelles sont les grandes formes d'utopie que l'on peut connaître ?
Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'utopie ? On parle d'un rêve impossible ou d'un idéal impossible ou d'un rêve chimérique. Mais on parle de ça depuis que des gens au début du XVIIIe siècle, Leibniz et Mandeville, pour ceux qui veulent aller chercher, ont inventé le nom commun pour s'opposer à la force des textes qui ressemblaient au premier texte écrit par Thomas More, un Anglais qui avait déjà beaucoup de fonctions politiques et qui en a encore plus eu ensuite en 1516. Thomas More a inventé un texte qui l'appelait du nom propre Utopia, dans lequel il présentait les désastres économiques et politiques produits par une énorme mondialisation de l'époque au début du XVIe siècle, après la découverte de l'Amérique et du fait d'une réorganisation du textile et de l'agriculture. Et deuxièmement, il jouait sur la fiction en racontant qu'un de ses personnages avait rencontré un pays dans lequel ça se passait beaucoup mieux. Tout le monde travaille, il n'y a pas des gens qui fichent rien. On a du temps pour les loisirs, on se cultive, on a le droit de se connaître avant de se marier, on a le droit de pratiquer la religion qu'on veut. Les adversaires de ce type de texte qui suscite l'imagination politique, qui s'amuse à faire croire qu'un monde meilleur peut exister tout en faisant qu'on sait bien que c'est une fiction, comme un roman, les adversaires de l'imagination politique ont imposé un sens négatif. Leibniz, début du XVIIIe siècle, 1710, et avant, en anglais, Mandeville. Et ce sont eux qui ont mis dans notre tête, dans les esprits d'aujourd'hui de millions, de milliards de gens dans toutes les langues, de toutes les planètes, l'idée que c'est un rêve impossible, alors que c'est un jeu textuel, une fiction, qui sert à développer l'imagination. Donc ce dont je vais parler aujourd'hui, moi, dans les Champs Libres, mais j'espère aussi en parler avec mes compagnons là, de discussion, ils auront d'autres choses à apporter, je vais essayer d'en dire un mot, que moi, enfin j'espère d'eux qu'ils vont apporter autre chose que ce que je peux apporter. Je vais dire que dans la situation politique que nous connaissons tous très bien en ce moment, et qui nous inquiète beaucoup, qui nous désespère énormément, même si certains souhaitent peut-être que tel... Je veux dire, candidat politique gagne, on n'en est plus là. Les circonstances économiques sont quand même très graves. La baisse de la croyance en la politique est très grave et le désinvestissement politique est très grave. En France, en Europe, ailleurs peut-être, mais là, disons que je ne suis pas capable d'en parler. Bon. Nous avons besoin aujourd'hui, pardon, je vais finir, d'imagination politique. Et l'une des manières de se redonner le courage, chacun individuellement, mais aussi tous ensemble, de retrouver de l'imagination politique, d'oser penser qu'on peut construire l'Europe totalement autrement qu'elle s'est construite, d'oser penser une démocratie totalement autrement qu'elle existe actuellement. L'une des manières que nous avons est de laisser aller notre imagination, comme les auteurs de fiction savent très bien le faire, qui sont eux-mêmes surpris par ce qu'ils écrivent.
Alors justement, vous nous expliquez que finalement l'utopie, c'est une forme d'activateur de l'imaginaire, de l'imagination, et donc de changement social. Ces 40 dernières années ont été marquées par le fait qu'il n'y avait pas d'alternative, et qui fait que l'État que nous connaissons se transforme en une forme de destin que l'on ne peut pas maîtriser. Finalement, aujourd'hui, c'est là que se pose le retour de l'utopie. Est-ce qu'on peut imaginer que nous sommes dans une époque de cette nature ?
Oui, alors bon, notre époque, en gros, c'est celle de... Enfin, pour donner une date symbolique, c'est celle de la chute du mur. 1989, c'est une des plus grandes révolutions que notre civilisation ait connue à l'échelle, disons, de la Révolution française ou de la Révolution soviétique. Bon. Vous avez parlé des 40 ou des 30 dernières années, enfin, ce qu'on appelle aussi les 30 piteuses, hein, après les 30 glorieuses. Donc, effectivement, là, on est dans une période en France... En Europe aussi, bon, mais surtout depuis la chute du mur, hein, bon, où on connaît les désastres de la violence qu'on peut appeler néo-ultralibérale. Hein, bon. Mais moi, je crois aussi que nous avons une chance à saisir, qui est de tenter, c'est très difficile, de retrouver de l'imagination politique, comme vous l'avez dit, entre autres, grâce à ces... Vous avez dit déclencheurs, hein, la formule me plaît bien. Nous avons la chance, peut-être, de pouvoir réimaginer en combattant ce qui peut nous déplaire aujourd'hui. On ne sera pas tous d'accord sur ce qui nous déplaît, mais bon, c'est un autre problème. Enfin, du moins, c'est le problème de la diversité des opinions, et tant mieux. Mais en se passant aussi de ce qui a cru pouvoir faire obstacle à ce qui s'est appelé d'un grand mot le capitalisme, hein, ou d'un autre mot très complexe et ambivalent qui est aussi porteur de choses positives, le libéralisme, hein, je pense à ce qui a pris le monopole des forces progressistes pour les idéalistes, disons, pendant un siècle et demi, le marxisme et le communisme. Je regrette que beaucoup de gens aujourd'hui qui sont très engagés comme moi aient besoin de se rattacher, hein, à des formes dogmatiques et surtout insuffisamment pensées, de ce qui a été, disons, l'histoire du marxisme, hein, qui a des rapports avec l'utopie. Hein, bon. J'aimerais que, par exemple, quand on lit Marx, on trouve qu'il y a des choses passionnantes et intéressantes à lire pour comprendre l'économie. Mais qu'on comprenne aussi que la vision de l'histoire, par exemple, de la dialectique marxiste ou hegelienne, est tellement stupide qu'il n'y a même pas à en parler davantage que de savoir s'il est bon d'exploiter les travailleurs en leur retirant, comme actuellement en Grèce, 20% de leur salaire, puis 30% de leur salaire, de leur supprimer leur retraite, parce que ça serait bien. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à un moment de grande transformation idéologique, où les gens sont probablement en grande partie, je dirais peut-être moi aussi, et par moments désespérés et ne sachant pas où penser et comment imaginer. Mais en fait, on peut peut-être enfin repenser la politique telle qu'on nous a empêchés de la penser depuis les propagandes libérales ou ultralibérales et les propagandes marxistes-communistes, qui bloquent la pensée, et qui ont toutes les deux été responsables du sens négatif du mot utopie. C'est-à-dire que c'est Leibniz et Mandeville, des ancêtres des ultralibéraux, qui au début du XVIIIe siècle ont dit qu'utopie voulait dire rêve impossible, mais ensuite c'est Engels, qui travaille sans arrêt avec Marx, qui a écrit en 1880 « Socialiste scientifique, socialiste utopique », c'est-à-dire le socialisme scientifique, le vrai, c'est le marxisme, et le reste c'est utopique, c'est-à-dire de l'imagination, de l'idéal qui ne sert à rien. Bon. Et il y a tout autre chose à faire, il y a inventer ensemble, imaginer ensemble, en dialoguant, et aller ensuite jusqu'à, j'en parlerai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, des textes juridiques qui permettent de transformer la réalité.
Alors, dernière question finalement, est-ce que l'utopie aussi, cet appel à l'utopie, ce n'est pas un nouveau moment de réappropriation par la société, par le démos aussi, de son avenir ?
Merci pour toutes les questions, parce que ça me permet d'aller où j'espère aussi. Donc c'est bien sûr, je pense la même chose que vous, hein, c'est pas une obligation, parce que les utopies, ça peut être n'importe quoi. Il y a eu des utopies nazies, il y a eu des utopies racistes, sexistes, n'importe quoi. Mais le développement de l'imagination politique doit être entendu, en tout cas aujourd'hui, c'est ce que j'espère, comme un développement collectif, mais pas collectif contre l'individu, hein, collectif par l'association de tous les individus pour qu'ils réimaginent tous ensemble, avec leur diversité. Et par exemple, en imaginant, une constituante qui, c'est le projet de André Belon, hein, Association pour une constituante, qui réorganise l'ensemble des rapports économiques, sociaux, politiques aujourd'hui en France. Et puis on pourrait peut-être y réfléchir aussi pour l'Europe et aussi pour le monde.
Laurent Lotti, merci. Logosphère. Zone autonome de parole et de pensée libre. Sur les ondes d'univers.